Europe 1.
Le journal de 6h, présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Le rouge, voilà peut-être la couleur de votre compte en banque. Nous sommes le 24 novembre et la fin du mois est là. Un budget grignoté par l'inflation qui oblige des Français à cumuler plusieurs emplois. Une double, une triple journée même pour 2 400 000 personnes d'après les dernières données de l'INSEE. Margot Faudéré, quel est le profil de ces travailleurs ?
Eh bien, dans 3 cas sur 4, c'est un salarié qui exerce une autre activité en tant que salarié, d'après l'INSEE. La plupart du temps, il travaille dans le tertiaire, c'est-à-dire dans les services et notamment dans le commerce. Un secteur où les salaires sont souvent bas, aux alentours du SMIC, d'après la fédération CGT, Commerce et Services. Alors les travailleurs, surtout ceux à temps partiel, multiplient les emplois pour s'en sortir, explique Stéphane Leroux, secrétaire fédéral de la fédération.
Et ça demande une organisation colossale. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de faire des journées qui démarrent très tôt le matin et avec des journées qui termineront à des heures tardives. Je peux prendre l'exemple d'une hôtesse de caisse qui va démarrer dans une grande surface à 9h ou 10h du matin et qui va aller faire des ménages communaux, par exemple.
Cette pluriactivité, elle touche aussi les transports, la sécurité, l'aide à la personne ou encore l'hébergement, restauration. En tout cas, les salariés du tertiaire qui occupent un second emploi restent souvent dans le même secteur.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
L'interdiction de la corrida, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, deux sujets au programme des députés aujourd'hui.
Oui, deux propositions de loi portées par la France insoumise, sans Adrien Quatennens, toujours absent des bancs de l'Assemblée nationale.
Et son retour est compromis. Roman, l'insoumis ne participera pas aux activités du parti tant que la décision de justice ne sera pas rendue. C'est un communiqué des cadres de la France insoumise publié hier soir.
Oui, l'épouse de l'élu du Nord a formulé hier de nouvelles accusations contre lui, des violences physiques et morales qui auraient duré plusieurs années. Adrien Quatennens se conteste catégoriquement et pour sa collègue Raquel Garrido, la parole des victimes doit être prise au sérieux.
Je pense que tout le monde doit respecter la parole de Céline Quatennens. Ça confirme également la pertinence de la suspension d'Adrien Quatennens. Et ça ne me donne pas l'impression que ce sont des faits qui seraient à même de remettre en cause ces décisions-là, donc qui pour moi doivent être du coup confirmées.
La députée insoumise Raquel Garrido au micro d'Alexandre Chauveau pour Europe 1. 6h03, un crime contre l'humanité. Prise de parole cette nuit de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a dénoncé les frappes de la Russie cette nuit au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des missiles ont frappé la capitale ukrainienne, Kiev, coupure de courant et d'électricité. Emmanuel Macron a annoncé un contact direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours.
L'armée française se prépare elle aussi à une guerre de haute intensité et les autorités changent de méthode.
Oui, l'école de guerre de l'armée a organisé pour la première fois hier un tournoi de wargame, comprenez jeu de guerre en anglais. Alors pas d'armes, mais un plateau, des dés et des pions. Le reportage de William Molinier.
Face aux Allemands, la partie est serrée. Le chef d'escadron Guillaume lance les dés.
Oh yes.
L'artillerie française a créé une brèche dans la cavalerie allemande. La prise de risque est maîtrisée. Le jeu de guerre permet cela. À moindre frais, les morts et le matériel détruits sont virtuels. Mais la stratégie et la pensée militaire s'y construisent. Le colonel Sébastien Chenbaud, directeur de l'école de guerre terre.
La guerre est avant tout un affrontement de volonté, un affrontement d'intelligence. Elle a une part scientifique, évidemment, mais pas uniquement. Elle a une part artistique, le sens tactique, le coup d'œil. Et c'est exactement ce qu'on cherche à développer là.
Le wargame permet aux états-majors de tester virtuellement des manœuvres, repérer les angles morts et les failles. Mais il a longtemps été délaissé par les armées françaises, comme l'explique le commandant de réserve Antoine Bourguillot.
Dans les années qui ont suivi la défaite de 70, l'armée française s'est un peu intéressée aux jeux de guerre. On a traduit les jeux de guerre allemands. Mais finalement, ça n'a pas pris parce qu'en fait, on n'a pas réussi à les intégrer vraiment dans la formation. C'était plutôt quelque chose qui était utilisé, notamment au cercle des officiers. Le soir, voilà, l'habitude s'est perdue.
L'armée de terre y revient donc aujourd'hui. Ses futurs grands chefs passeront cette année une quarantaine d'heures sur ce type de plateau de jeu.
Le reportage de William Molinier.
On part pour la Chine à 6h05 sur Europe 1, la Chine où les ouvriers d'une usine géante se révoltent contre les mesures anti-Covid.
Oui, le pays est confronté à un nombre record de cas, plus de 31 000 nouveaux malades hier d'après les chiffres officiels. En tout cas, confinement décrété ce matin à Zhengzhou, une ville qui héberge le plus grand site de production d'iPhone au monde. C'est la propriété du sous-traitant Foxconn confronté à la rébellion de ses 200 000 salariés asphyxiés par ces mesures anti-Covid. Le récit du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Le Belzic.
Deuxième jour d'émeute à Zhengzhou, l'usine Foxconn a été en partie occupée cette nuit par plusieurs milliers de manifestants qui demandent le versement de primes exceptionnelles. Ce matin, Foxconn explique qu'une erreur informatique est à l'origine du non-paiement des salaires. Le sous-traitant d'Apple présente ses excuses, mais la colère gronde toujours alors que le site est bouclé. Les 200 000 ouvriers doivent vivre sur place depuis plusieurs mois pour éviter tout risque de contamination au Covid. La police a donné l'assaut ce matin et sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des policiers frapper des manifestants avec leur matraque. Fin octobre, plusieurs milliers d'employés de l'usine s'étaient échappés, fuyant ces contraintes sanitaires. La production d'iPhone pourrait chuter de 30% cette année. Les autorités viennent d'annoncer que la moitié de cette ville de Zhangzhou, soit 6 millions d'habitants, est placée en confinement, officiellement pour lutter contre la pandémie. Mais évidemment, il s'agit surtout de mettre un terme à ces manifestations. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
6h06 sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde de foot, avec une victoire dans la douleur, celle de la Belgique qui s'est imposée hier soir face au Canada, 1-0, et c'était laborieux, on peut le dire. Les Diables Rouges peuvent dire merci à leur gardien, le géant Thibaut Courtois a détourné un pénalty, but belge juste avant la mi-temps.
Et parmi les affiches du jour, deux géants du foot font leur entrée sur le terrain, le Brésil face à la Serbie à 20h et puis un peu plus tôt le Portugal contre le Ghana, ce sera à 17h.
Une équipe portugaise menée par son capitaine emblématique Cristiano Ronaldo, le ballon d'or qui vient de rompre son contrat avec Manchester United. Un divorce attendu, surtout après l'interview explosive du joueur qui tapait sur son sélectionneur. Johan Tritz, le portugais, est désormais le seul joueur du mondial à ne plus avoir de club.
Oui, et d'ailleurs, difficile d'éviter les questions sur le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United en conférence de presse. Même si, si brûlant soit-il, le sujet n'a pourtant pas été abordé en interne, y compris avec son désormais ex-coéquipier chez les Red Devils, Bruno Fernandez.
Non, il n'a pas parlé de sa décision. Nous sommes plutôt concentrés sur la Coupe du Monde.
Mais ce n'est pas forcément le cas des journalistes qui ont insisté jusqu'à mettre mal à l'aise le sélectionneur Fernando Santos.
On vous sent gêné par les questions sur Cristiano Ronaldo.
Non, je ne suis pas gêné, je riais juste.
Un rire sans doute un peu jaune puisqu'il a, dans la foulée, mis fin au débat.
C'est un sujet dont on n'a même pas parlé. Pas un seul commentaire à l'entraînement, pendant le voyage, à l'hôtel. L'important, c'est que les joueurs soient tous dans un état d'esprit fantastique.
Et il faudra l'être, car après les faux pas des favoris argentins et allemands, pas question d'avoir la tête ailleurs contre le Ghana pour Cristiano Ronaldo et sa bande.
Johan Tritz. On n'y est pas encore, à la finale. Bon, quoi de mieux?
On sent que ça vous démange.
Oui, quand même. Bon, en tout cas, c'est pour encourager les joueurs du mondial, oui. Notamment Portugal-Ghana, on l'a dit tout à l'heure. We are the champions, the queen. Et aussi pourquoi j'ai choisi de la diffuser ce matin, puisque la star Freddie Mercury a disparu il y a 31 ans, jour pour jour aujourd'hui, 24 novembre 1991.
Comme le temps passe. La championne du journal de 6h. Merci, Roman Hockey, 6h08.